Nous recevons aujourd'hui Nilso, qui va un peu nous parler donc un peu du bilan qu'il fait de ces 10 dernières années, par rapport à son travail, par rapport à toutes les expériences qu'il a pu avoir. Et la première question qu'on souhaite poser, c'est de savoir un peu quand tu as commencé, comment tu as commencé, avec qui éventuellement, et pourquoi aussi tu as commencé, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es mis à faire du dessin, etc.
Alors j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la musique avec mes deux frères. J'avais 10-11 ans et mon frère aîné, pour être tranquille, nous traînait, moi et mon frère, beaucoup plus jeune, 10-15 ans plus jeune, dans des concerts, dans des festivals, sans trop en parler à mes parents. Donc j'ai eu mes premiers concerts à l'âge de 12 ans. Et du coup, j'ai toujours voulu faire de la musique. Je sais que je vais parler de bande dessinée à un moment ou un autre, mais en fait, mon envie, c'était pas de devenir artiste, mon envie, c'était de participer à la scène rock rennaise. C'était de faire du rock, fonder un groupe, fonder un label. Avec l'idée que j'avais toujours appréciée dans le rock rennais, c'est à la fois une forme de discrétion par rapport aux médias, par rapport au succès, un lien direct avec tout ce qui se faisait à l'époque à Londres, notamment. Et tout ça entretenu par des émissions que l'on écoutait à Rennes, qui étaient diffusées depuis la rue de Saint-Malo et le café L'Ozone, grâce à l'arrivée des premières stations de radio libres en France. Et puis, comme ça arrive souvent, tout ça a été enterré très vite parce que il a fallu que je finisse mes études, que je trouve un travail. Et des années plus tard, donc à 27-28 ans, après avoir travaillé notamment pendant 4 ans dans des labos chimie, avoir émigré à Paris et avoir un peu perdu de vue mes deux frères qui eux-mêmes étaient devenus l'un ingénieur de la technologie, l'autre dans les fabrications d'autoroutes, que des choses passionnantes. On était tous les trois à acheter des disques, mais à aller encore au concert, il y a un autre phénomène aussi, c'est que on a voulu monter un groupe et faire de la musique et on était tous les trois, mais ce qu'on peut appeler archi nul. On n'était même pas capable de refaire du punk rock. C'était une grosse déception, mais voilà. Et il se trouve que j'étais à Paris, j'avais un bon boulot, un bon salaire. Et je m'étais dit, le jour où je suis apprécié de mes collègues, le jour où j'ai un bon boulot, un bon salaire et qu'on veut me garder, j'en profiterai pour prendre la porte à ce moment-là, sans amertume. Et donc j'ai décidé de prendre un an d'année sabbatique. D'autant que j'avais un collègue qui était un collègue chimiste algérien qui lui travaillait 6 mois dans la boîte et écrivait des polars pendant 6 mois. Et il m'a dit, c'est tout à fait faisable, il faut que tu le fasses, t'as envie, tu t'es pas du tout fait pour faire ça toute ta vie et tout. Et au même moment, ma sœur aînée a acheté une maison à Rennes et où on devait refaire toutes les peintures, etc. Et elle est partie pour 3 ans en Afrique. Donc je me suis dit, avec un petit pécule et puis de l'envie, je vais m'installer à Rennes et je pourrai faire ce que je veux. Donc je me suis installé à Rennes, j'ai fait une première exposition de mes peintures quelques mois après. J'ai voulu faire de la vidéo, recommencer à essayer de faire de la musique, etc. Et puis, un peu par hasard, j'ai découvert le fanzine de Olivier Josso et Laure Delpino, Brulos Lezarzi, qui n'aurait jamais dû être là, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien de tout ça à Rennes. Mais il y avait une jeune femme qui s'intéressait au rayon BD qui avait accepté de prendre leur fanzine. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça, rien d'autre. C'est une espèce de coup de foudre. C'était exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire, c'était de la bande dessinée, mais c'était rock. C'est, ça suintait le rock, l'indépendance, la liberté et le talent. Et puis, j'ai oublié le projet. Je suis rentré chez moi et j'ai recommencé à procrastiner et à beaucoup lire aussi. Parce que j'avais du temps à rattraper, donc je lisais énormément de littérature, je lisais aussi des journaux. Enfin voilà, je vivais comme un bourgeois qui a du temps et qui a de l'argent. Et à ce moment-là, il y a eu un concours de bande dessinée et avec ma compagne Joëlle. On a fait le concours alors qu'on n'était pas du tout dessinateur de BD. Elle a gagné le premier prix, moi j'étais dans le 8e, je crois. Et voilà, on s'est dit...
C'est frustrant, ça, qu'elle gagne et que tu sois huitième.
C'était pas frustrant, non, mais c'était très étonnant parce que moi, j'avais quand même vu mon frère Philippe qui était très doué en dessin. Et je m'étais toujours dit, alors que j'étais au bout du bureau et que je le voyais dessiner, que si je voulais dessiner un jour, je saurais comment faire parce que je l'avais vu dessiner depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je savais quel papier j'utiliserais, quel stylo j'utiliserais, comment on faisait une planche, comment on construisait un scénario... Enfin, en tout cas, je pensais que je savais. En tout cas, j'avais pas de peur comme j'en avais pour la musique. Ça me semblait quelque chose de familier. Et...
Tu te sentais plus capable, quoi. Tu te sentais plus capable, oui, avec des capacités par rapport à ça, quoi. À l'inverse de la musique, comme tu disais.
C'était pas forcément en termes de capacité, mais en quelque sorte, c'est ça. Mais c'est surtout que j'avais pas de. J'avais pas, absolument pas peur de ça. Ça me paraissait vraiment déjà faire partie de ma vie. Mais tout ça, tout ce que je viens de raconter, ça révèle ma mentalité de rêveur total et mon optimisme. L'optimisme qui me caractérise. Je me lève tous les matins tout neuf. J'ai complètement oublié ce que j'avais fait la veille et j'ai toujours. Je lance toujours dans plein de choses et en pleine forme le matin, c'est une chance et c'est comme ça. Donc j'avais absolument pas peur de me lancer dans la BD. J'aurais dû, mais c'était pas le cas. Et en fait, nos planches étaient exposées dans un petit festival en banlieue rennaise. Et puis là, dans l'entrée, il y avait Olivier Josso et Hervé Pinault qui dédicassaient leur fanzine. Évidemment, personne ne venait les voir. Et moi, j'ai mis à peu près 2h30 à m'approcher de leur stand en faisant des petites, effectivement, des petits cercles de plus en plus rapprochés.
On voit bien ce que c'est.
Et quand je suis arrivé, je leur ai dit que c'était des gens formidables et que je voulais les imiter. Et donc, ils m'ont dit, bon, on boucle le stand et on va à la maison, on va boire des coups. Sauf que je ne buvais pas d'alcool, donc je n'ai pas bu d'alcool, mais eux, ils en ont bu. Et on a passé toute la nuit à regarder leur bibliothèque de fanzines underground américains, des choses incroyables. Ils avaient les frères Hernandez, ils avaient l'association, ils avaient notamment le Cheval Blême, ils avaient les comics de Drone et Quaterly, il y avait le premier set Paloukaville, il y avait Chester Brown. Je sais pas moi, 19-20 heures jusqu'à 5-6 heures le lendemain matin, j'ai eu un espèce de cours accéléré de bande dessinée. Avec un choc hallucinant en découvrant les planches de Marc Beyer, des choses comme ça, quoi. Et à ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils nous commandaient des planches pour leur journal. Et donc, pendant 15 jours, j'ai dessiné comme un malade des planches pour leur journal. Et au bout de 15 jours, quand je les ai livrées, ils m'ont dit que c'était pas bien, que ça ne leur convenait pas, que c'était amateur, qu'ils étaient désolés, qu'ils s'étaient trompés. Et donc, je me suis dit qu'ils allaient se faire foutre, je vais faire mon propre journal. Et donc j'ai fait mon propre journal. Et donc j'ai demandé à Joël de faire des planches. J'ai demandé à mon voisin du dessus de faire des planches. Et j'ai appelé mon frère Philippe qui était dans ses entrées et ses sorties d'autoroute et dans ses calculs mathématiques de faire des planches. Et j'ai demandé à mon frère aîné qui lui était dans sa technologie, etc., de faire un texte. Et à sa copine de faire un texte. Et on a fait le 6 mots comme ça. Et...
C'était en quelle année ça ?
C'était en novembre 92, je crois. Et mon frère, donc, comme il était dans un. Il co-dirigeait plus ou moins un atelier de dessin industriel, ils avaient une très bonne photocopieuse. Et je suis venu faire des tests sur la photocopieuse. Et son patron était là. Il a dit bah, je vous donne les clés. Vous venez tous les dimanches si vous voulez. Et puis vous imprimez, c'est gratuit. Je vous soutiens. Et donc, on a fait 5-6 après-midi à suivre. On a fait des maquettes, des essais, des collages, des bidouillages. On n'avait absolument aucun ordinateur. On ne se connaissait rien. Donc, on se faisait tout à la paire de ciseaux, des montages, etc. Et puis, c'était parti parce que. Au mois de janvier, on a décidé de tout refaire, mais en format A5, parce que le grand format sur la photocopieuse ne nous intéressait pas trop, finalement. On trouvait ça trop proche de Brûlos le Zarzi, ce qu'on avait fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que le premier numéro, je m'étais inspiré de tout le travail du graphiste de New Order pour faire la maquette, avec un résultat qui ne ressemblait pas du tout à du New Order. Et ensuite, toujours mon frère aîné m'a dit « Je connais un photocopieur dans la zone industrielle qui est extraordinaire, qui s'appelait le Jésus, qui fume le cigare et va le voir. » Donc je suis allé le voir et puis il m'a dit « Je suis désolé, mais j'ai absolument pas le temps pour vous. » Ben, j'ai dit « C'est pas grave, je peux attendre 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans un coin. Et dès que la photocopieuse est pas en service, j'imprime. Dès que tu en as besoin, je te la rends. » Et au bout de 4-5 jours comme ça, il m'a dit « Non, c'est trop con, tu galères, je vais faire un truc, c'est que le samedi après-midi, j'en ai pas besoin, donc tu viens imprimer. » Et on a commencé comme ça et j'ai beaucoup d'émotions à en parler parce qu'il est décédé depuis et c'était un type extraordinaire qui a ensuite aidé aussi Judith et Marinette, la chose, et qui a été une espèce de catalyseur extraordinaire puisqu'il... Il allait jusqu'à nous aider à faire les cartons, les mettre dans la voiture avant Angoulême. Et puis, il s'inquiétait toujours pour les petits de JT Manette. Il me disait, ça va, ils ont une bonne voiture, ça va. Et puis, on pouvait payer un mois après Angoulême. Et voilà, ça a été c'était le début d'une aventure qui a duré peut-être 8-9 ans, extraordinaire. On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. Et voilà.
Au niveau du contenu du CIMO, donc déjà le CIMO, ça veut dire, pourquoi le CIMO ? C'est CIMO, oui.
Mais en fait, j'ai voulu me perfectionner un petit peu en grammaire, en orthographe. J'ai acheté un petit précis d'orthographe et un des jeux était de mettre CIMO dans un chapeau, de les retirer, de faire un texte et ensuite, avec le dictionnaire, de retravailler l'orthographe, etc. C'était une méthode finalement de... une espèce d'atelier d'écriture miniature et j'ignorais totalement que c'était surréaliste et que c'était Loulipo parce que sinon je l'aurais pas fait parce que je déteste tout ce qui a rapport avec le surréalisme et le côté sectaire justement qu'on a... C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé la manière dont l'association s'est mise en place après parce que c'était complètement l'opposé du punk et du post-punk qui est ma motivation première encore aujourd'hui.
Et donc, vous étiez combien alors au début, vous étiez 2, 3, 4. Il y a eu Laurent Lolmed aussi qui est apparu un moment.
Alors, au début, on était 6, mais dès le troisième numéro, mon voisin, on a éjecté mon voisin parce qu'il ne progressait pas. mon frère et ma belle-sœur parce qu'ils voulaient. Produisaient pas quoi, ils avaient fait des textes, mais au début c'était spontané, puis après c'était chiant, il fallait refaire, réécrire. Et puis on a dit on fait pas ça, on fait que de la bande dessinée. Et puis quand on est allé on a décidé de copier complètement ce que faisait Olivier et Laure, c'est-à-dire qu'ils nous avaient dit qu'eux renonçaient à faire des salons toutes les semaines, mais qu'ils avaient commencé comme ça. Donc comme j'avais ma grosse CX 15 chevaux à l'époque et que j'adorais rouler pendant peut-être 6-7 mois, on a fait tous les salons, toutes les kermesses BD de la plus pourrie jusqu'à la plus underground à Paris. Et évidemment avec le mal de bide, et puis, parce que j'ai absolument qu'une habitude de faire ça, je me lançais et Joël aussi. Et puis on s'est retrouvés dans une espèce de festival, convention BD au lycée Camissé à Paris. Et là, il y avait Big Ben et il y avait du Facocher qui était au numéro 5, au numéro 6. Et puis, il y avait aussi McPlain du Goinfre à l'époque. Et McPlain nous a dit « C'est fou, ça ressemble énormément à l'Olmed. » Alors Joël a tout de suite percuté en disant « T'as des planches de l'Olmed ?» Et il y avait un espèce de fanzine un peu pourri qui traînait où l'Olmed avait fait une planche. Et à ce moment-là, elle a pris les pages blanches et puis on a sonné chez lui 2 heures après. Et il nous a accueillis. Puis c'était le début d'une longue amitié, d'une collaboration fructueuse pour moi parce que autant Joël était doué naturellement et progressait toute seule, autant moi j'avais besoin d'un Pygmalion et de conseils et d'être un peu cajolé parce que mon expérience ratée de la musique faisait que j'avais jamais confiance en moi. Même si j'avais le tonus pour le faire, mais j'avais pas la confiance en moi et je faisais des trucs vraiment pas terribles, quoi.
C'est intéressant comme c'est beaucoup des rencontres comme ça, des belles rencontres fortuites qui font que vous avez sauté d'étape en étape. Ça, c'est très chouette.
Oui, c'est ça. C'est le quand on écoute des émissions à la radio avec des acteurs ou des comédiens, ils disent toujours « Oui, c'est l'histoire d'une rencontre !» Et au bout d'un moment, on se dit « Mais pourquoi ils racontent tous la même chose ?» Mais en fait, c'est vrai, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si tu bouges pas ton cul pour aller voir comment c'est fait ailleurs, c'est sûr que ça peut comme ça durer longtemps. Et puis, sans t'en rendre compte, tu restes qu'un espèce de fan, la bouche ouverte et voilà, les yeux dans le vide. C'est pas...
Et au niveau du contenu, on remarque quand même assez rapidement dans le CIMO que vous parlez du quotidien, des petites choses, de ce qui se passe autour de vous. Comment vous en êtes arrivé là, en fait? Vous avez lu des auteurs américains, comment?
Non, au départ, l'idée de faire son journal, c'était plus... ce qu'on écoutait à la radio, on écoutait beaucoup France Culture, notamment il y avait les Nuits Magnétiques et il y avait tout ça. On était vraiment dans une démarche où on essayait de se construire un bagage intellectuel et on allait beaucoup au cinéma. Donc il y avait aussi tous les films de Kiarostami, tout l'indépendant, tout le cinéma indépendant. Il y avait Jim Jarmusch. Toute cette scène indépendante américaine faite avec trois fois rien qui était pour nous un prolongement d'épingle, justement le fait tu fonces, tu y vas et puis et tu vois après, quoi. Et bon, bah voilà, les matériaux que tu as, ce que tu as autour de toi, tu l'utilises. Mais par exemple, Joël et Philippe, qui étaient plus au point que moi, n'avaient pas l'intention de faire des livres avec ça après. C'était juste l'idée de remplir le CIMO aussi qui était motivant.
C'était distribué uniquement à Rennes ou vous avez comment vous avez fait pour diffuser
C'était diffusé uniquement à Rennes dans l'espèce de mini FNAC. C'était le Forum du Livre, en fait. C'est une espèce de chaîne qu'il y avait à Nantes et à Rennes. Et comme il y avait cette fille extraordinaire qui prenait tout ce qui était underground, on le diffusait là. Et sinon, c'était au Regard Moderne à Paris et puis à peu près tout au début.
Comment t'en es arrivé, enfin vous en êtes arrivé alors à ce passage où vous faites un fanzine, etc. pendant un certain temps, et puis à un moment vous décidez ou tu décides de faire un livre, de passer comme ça une sorte d'étape, ça s'est fait naturellement. Est-ce que comment c'est venu ce genre de choses?
Le livre est arrivé pour moi très tard parce que il y avait une espèce de paradoxe. Je venais à Angoulême et puis les gens me disaient. Ah, j'ai acheté ton comics l'année dernière, il est vraiment génial, alors que je n'avais jamais fait de comics. J'étais le seul à ne pas faire de comics au CIMO. Moi, je m'occupais du journal, de la maquette, de la fabrication, et je ne travaillais pas assez pour faire des planches et surtout pas de comics. Il n'y avait que Joël et Philippe et puis l'Olmed à côté, sur le même stand souvent, qui faisaient des choses. Moi, je n'étais pas du tout... il a fallu attendre 98, c'est-à-dire... 4-5 ans après mes débuts, parce que j'ai commencé l'édition en même temps que j'apprenais à dessiner. Donc je travaillais jour et nuit. Je me rappelle que quand j'étais épuisé, j'allais me coucher une demi-heure et au bout d'une demi-heure, je me réveillais et puis je m'y remettais, quoi. C'était complètement... avec le recul, je me dis que j'avais une forme incroyable. Et puis surtout l'envie. Et puis je sais pas, avec le recul, je me dis que j'avais vraiment l'impression de vivre un truc... d'être là au bon moment, quoi. L'expression américaine, comment c'est
the right place at the right time.
Oui. C'est exactement ça, c'est ça. Ouais, une espèce comme ça. Et je me disais, j'ai raté le punk et le post-punk, mais je rate pas l'underground BD, quoi.
Oui, donc, oui, forcément, tu étais conscient de tout ce qui se passait un peu ailleurs. ne fût-ce que... Bah, y avait les taupes de l'espace aussi que tu as rencontrées, j'imagine, assez rapidement.
Au tout début, les taupes de l'espace, ils étaient déjà beaucoup plus jeunes que Joël et moi. Ils avaient 10-12 ans de moins. Ils étaient en fac. Et puis, on s'entendait pas trop parce qu'il y avait une différence de ton. Moi, j'étais déjà quand même relativement mûr et je savais ce que je voulais. J'étais déjà assez professionnel. J'aimais pas trop les blagues potaches et perdre mon temps. Et puis en plus, je sortais pas trop, quoi. J'étais un peu staccanoviste. Et il y avait du respect pour nous, pour ce qu'ils faisaient, et inversement. Et il y a eu une espèce d'émulation parce que c'était une génération avec Eric et puis Madame l'ambassadrice, c'est-à-dire Sandrine de la Chose, et puis Jacques, et puis etc. etc. Ils étaient tous dans la même promotion, et je crois que l'année d'avant, en fac, et l'année d'après, dans la même fac, il ne s'est rien passé cette année-là. Il y a notamment des gens comme Sébastien Lumineau et son charisme extraordinaire qui ont sûrement stimulé ça, mais ça je le vois avec du recul. Mais Jacques aussi, parce que Jacques c'est quelqu'un qui signe Naz, pour ceux qui lisent Judith et Marinette. Jacques a toujours eu su ce qu'il voulait aussi, puis il a toujours été extrêmement précis, extrêmement, il a une éthique incroyable. Et donc tout ça faisait qu'on rencontrait des gens moins mûrs, mais quand même avec des personnalités déjà qui étaient là. Et puis Jean-Jean évidemment, qui est un virtuose extraordinaire, qui était là aussi. Donc, en même temps, ça se passait naturellement. C'était pas forcément conscient. Je pense que le truc qui faisait que je conscientisais peut-être un peu plus qu'eux, c'est le fait d'avoir lu tous les numéros de Rock et Folk d'abord, puis ensuite tous les numéros des Inrecuptibles, première version, quand c'était dos carré collé et avec des interviews poussées. Et puis Magic Mushroom, et puis des choses comme ça, où je m'étais fait à l'idée qu'il fallait pas signer avec des grosses maisons d'édition. Parce que tous les groupes que j'aimais, c'était perdu très très vite. Et donc, je tenais absolument à rester dans une dimension humaine.
Est-ce que tu es un des premiers, dis-moi si je me trompe, à avoir traduit John Porcellino, en fait ?
Alors, c'était une idée de Lolmen, hein, qu'il avait découvert à Regard Moderne, oui. Et donc... moi, je m'occupais beaucoup de la maquette, etc. Mais j'étais, comme je l'ai dit, comme je suis un rêveur, etc. J'étais pas, je percutais pas sur les nouveautés, les gens, etc. Je les voyais pas, quoi. Et Joël, c'était tout l'inverse. Son intention à Joël, au départ, elle avait passé un BTS tourisme, etc. C'était d'aller travailler à Istanbul, de voyager. Elle était trilingue. Elle adorait rencontrer des gens, etc. Et c'est toujours elle qui rentrait en contact avec les gens. Et ensuite, les gens me parlaient à moi. C'était un peu terrible comme situation, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai découvert personne. Porcellino, voilà, c'était c'est Joël qui le traduisait, qui faisait les lettrages avec une espèce de perfection. Elle recopiait parfaitement son lettrage parce qu'elle voulait absolument pas le trahir.
Comment je vais formuler ça? Après la disparition de Joël, tu as continué à dessiner, comment ça s'est passé, comment tu en es arrivé, le CIMO a continué, qu'est-ce qui s'est... En quelle année vous avez arrêté de faire le CIMO?
En fait, Philippe, mon frère, qui faisait partie avec Joël et moi d'un trio un peu directeur du CIMO, a eu deux enfants coup sur coup et il ne pouvait absolument plus vivre de la BD indépendante et il a décidé d'abandonner la bande dessinée pour faire de l'illustration. Et puis à ce moment-là, Lolmed a commencé à être courtisé par des gens comme Blanquet, puis des gens comme Berberian, Trondheim parlait de son boulot et je pense que tout ça a fait que moi je me suis senti un peu seul et j'ai décidé d'arrêter brutalement le CIMO et sans me rendre compte que ça allait affecter Joël parce que elle y tenait à mort, quoi. Elle voulait le développer, elle voulait absolument faire quelque chose. Et puis donc en 98, j'ai décidé de faire mon premier comics et j'ai mis quand même un an et demi à faire 20 pages. Et c'était un tel point que j'ai fait 7 versions et que la dernière version, c'est même pas moi qui fais le lettrage définitif, c'est Joël qui l'a fait. Mais bon, ça c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de faire sans le dire, c'est que moi je travaillais le dessin avec elle sur ses comics et elle écrivait mes textes et elle faisait les lettrages sur mes BD. Et donc on a décidé de continuer le Simo mais de faire nos comics et puis voilà, d'envoyer balader le reste et puis s'ils veulent faire leur truc après tout. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais en train de rentrer dans une forme de paranoïa, c'est-à-dire que mon optimisme a commencé à s'effriter un peu et je commençais à être agressif. Et puis je sentais mal l'évolution de l'association et des choses comme ça. J'aimais bien le côté Ego Comics, mais j'aimais pas le côté association. J'aimais bien le fait qu'il se développe, qu'il fasse des choses intéressantes, bien imprimées, mais j'aimais pas le fait qu'il puisse y avoir des espèces de mensonges médiatiques en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout créé, quoi. Voilà. J'avais envie, moi, de revenir à la naïveté que j'avais eu au départ et la liberté totale que j'avais au départ. Et j'étais très surpris de me retrouver dans un monde d'adultes où, alors qu'il n'y avait pas d'argent à se faire, il y avait des rivalités, quoi. Et donc, on s'est isolé. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que je allais tomber malade. Mais ça a été ma bouée de sauvetage parce qu'on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à l'hôpital. C'est des heures à attendre des résultats et des... Et moi, je dessinais. Je dessinais la nuit. Et pendant que je dessinais la nuit, le temps était suspendu. Il n'y avait plus de problème. J'étais heureux, quoi. Et puis le lendemain, ben, quand je retournais à l'hôpital, c'était l'horreur qui recommençait. Mais voilà.
Je me souviens, il y a super longtemps, donc on était venu te voir, vous voir à Rennes. Et j'avais vu sur ta table, tu avais... plein de petits dessins et ils étaient coupés en morceaux comme ça et pour moi c'était presque un refuge, quoi. Tu dessinais presque tout le temps la même chose tout le temps et c'était des tout petits gribouillés à langue de Chine avec une plume et tu découpais, tu montais ça comme ça et on sentait vraiment une sorte de réconfort comme ça, un truc que tu faisais. Moi j'étais essoufflé, je voyais waouh. Donc je trouvais ça très intéressant dans ton dessin et je crois que tu continues aussi comme ça, c'est une forme de répétition dans ton dessin aussi, même tes personnages, Jérôme d'Alphagraphe, voilà, je voulais savoir si tu pouvais parler un peu de cette méthode de dessin, est-ce qu'elle vient de cette période-là, ou déjà avant, comment elle est arrivée, c'est une méthode déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode.
Alors en fait, y a deux choses là-dedans. Parce que tu parles d'encre de Chine et de dessin tout petit. À la mort de Joël, j'ai vu des psys parce que bon, c'est tellement désastreux que j'avais besoin de me reconstruire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'enfin, j'étais proche de l'autisme, en fait. Ce que je n'avais jamais vu comme ça avant, mais j'étais dans une famille nombreuse et... J'ai appris, par exemple, à lire, écrire avec mes frères et sœurs, pas à l'école. J'ai appris à laisser mes chaussures avec mon frère. Et j'ai réalisé tout ça très tard, que comme j'étais dans un clan, j'étais protégé. J'ai pas eu de problème à me développer, à suivre à l'école, mais j'avais toute une série de problèmes quand même qui montraient que j'étais au moins un hyperactif assez fort, handicapé. Et en même temps, donc ce déficit de concentration, ça se révèle aussi par le fait que je ne peux faire des choses que si c'est extrêmement précis, comme par exemple ravauder un filet, dénouer des fils, des bobines. J'adore ça, quoi. C'est mon truc. Et si c'est tout petit, si c'est compliqué, si l'enjeu est important, je suis d'autant plus fort. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit. Chaque matin où je me lève étant tous les jours complètement neuf et ayant oublié la veille, je vais refaire la même planche tous les jours. Et les événements de la vie, et la couleur du temps, l'air que je respire, la petite musique que j'ai dans la tête, changera. Et cette planche, en voulant la faire identique, elle sera différente. Et bizarrement, ça a fonctionné, largement au-delà de mes expériences. Mais après, ça a mérité un montage, un remontage, parce qu'il y avait... une espèce de discontinuité dans la manière dont la planche était faite, mais au niveau scénaristique, c'était quasiment toujours la même chose. Donc j'étais obligé de découper toutes les cases et je les remontais ensuite sous forme de ce que j'ai appelé des eaux différentes, c'est-à-dire des cases très sombres d'un côté, des cases moins sombres jusqu'à des cases très claires. Et puis je les remontais comme ça en chapitres. Et ensuite, je blancotais tous les textes que j'avais pu mettre et je réécrivais. une espèce d'expérience aussi inspirée des interviews que j'avais pu entendre de Godard sur la manière dont il montait ses films. Une fois terminé, il n'était pas satisfait, donc il remontait tout. Il repassait tout sur la table de montage. Donc je l'ai fait, ça.
C'est marrant que quand tu expliques le fait que tu as besoin de faire quelque chose de très précis, on s'en souvient tous à l'employé du mois quand tu es passé, notamment Bertrand, tu lui montres, tu lui as appris à déboucher son rotring, parce que Bertrand, voilà, il dessine avec des tout petits traits. Et ça reste encore, voilà, c'est un truc, quand on parle de toi avec Bertrand notamment, ou d'autres gens, bah Bertrand dit « Ah oui !» Et le rotring, donc c'est vraiment, c'est assez significatif, parce que tu dis quand c'est quelque chose, quand c'est pour faire quelque chose de très précis, qui vaut la peine, et c'est ça, c'est vraiment important. C'est un outil, c'est l'outil de base, ton outil de base, et qui se bouche parfois avec de l'encre. Et toi, tu as appris à certains d'entre nous comment déboucher le rotring. Ça, c'est un geste tellement tout petit et simple, mais qui à la fois, voilà, permet de créer, de faire plein de choses. Ça, c'est. C'est incroyable comment on a retenu ça à l'employé du mois. Enfin bon, voilà. Je sais pas si on va poser une autre question par rapport. Philippe, je te laisse.
Il y avait une question qu'on pose. Tu as cité toute une série d'influences au niveau du cinéma, au niveau de la littérature. Une question qu'on aime bien poser, c'est si tu pouvais citer une ou plusieurs BD qui t'ont vraiment marqué, ou des auteurs, des choses qui. Qu'on soit donné envie de dessiner, ou qui à un moment ont vraiment provoqué un déclic comme ça par rapport à ce que tu fais. Est-ce que...
Ben, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est la musique. Hein. Donc c'est Joy Division, New Order, Television.
C'est pas ce qu'on entend là. C'est pas ce qu'on entend là en fond, mais.
Non, mais en même temps, j'écoute la radio toute la journée. J'écoute n'importe quoi. J'écoute de la variété. J'écoute de tout. Mais après, ce qui me structure, je vais le choisir. À un moment difficile d'un scénario, je vais réécouter des titres. Comme par exemple, je me rappelle dernièrement, j'ai réécouté l'intro du troisième titre d'un album de XTC. Parce que je me rappelais de la manière dont il y a une longue intro qui est faite avec un énorme tambour irlandais, et puis ensuite une musique qui monte graduellement. Et j'avais besoin de ça pour ma BD, donc c'est ça qui m'a inspiré le rythme, quoi. D'ailleurs, je fais même un truc un peu débile. Bon, bah tant pis, je l'avoue, mais c'est comme ça. Des fois, je me filme le matin. Parce que j'ai une telle euphorie qu'après, dans la journée, je me disais, tiens, ça serait marrant que je me regarde. Parce que ça se dégrade dans la journée, quoi.
Donc, tu es plus productif le matin. Tu dessines tu produis le matin, plutôt.
Je produis déjà d'avril à octobre. Et le matin, à partir de 3-4 heures, 5 heures le matin, jusqu'à 13-14 heures, en fait. C'est tellement... là, c'est des moments de plénitude. Dernièrement, même, c'était au mois d'avril, je me rappelle, je me suis mis... J'ai en fait une maison qu'on me prête et puis une petite terrasse. Et je suis allé me reposer sur la petite terrasse. J'étais tellement content d'être là et de faire ce que je faisais que j'ai ri tout seul pendant 20 minutes, quoi. C'était vraiment de l'euphorie, quoi. C'était de l'adrénaline pure, quoi.
Ok.
Cette dernière question, enfin, si t'en as d'autres, David, ça. Par rapport justement au projet futur, on a beaucoup parlé de ce qui s'est fait avant, et là maintenant, qu'est-ce que t'as comme projet, soit en termes de livres ou des projets justement peut-être, est-ce que tu vas fonder enfin ce groupe de musique dont tu nous as abondamment parlé, est-ce que...
Alors j'ai la musique, oui, je suis parti sur un projet, c'est que ces dernières années, j'ai fait beaucoup de résidences, et notamment avec L'Autre Idée, qui est un groupe assez extraordinaire, qui est une utopie complète, qui est réalisée par un type qui s'occupe beaucoup de conseils aux associations, etc., qui fait des audits toute la journée, et qui en avait vraiment marre de faire des choses sérieuses avec des budgets, et qui part avec son argent propre, et des gens qu'il aime bien, des musiciens, des dessinateurs de BD, et des vidéastes, etc. Et on est allé en Casamance, on est allé sud du Sénégal, on est allé sur l'île de Sein, et là on va aller ensemble en Cornouailles, britannique. Et là j'ai rencontré des musiciens, et notamment Thomas Lecor, je regardais tous les après-midi, vu que je travaille le matin, comme je te le disais, et que lui se levait à midi. Je le regardais faire ses gammes, se réveiller en faisant ses gammes tous les jours et faire du bac à la guitare. C'est quelqu'un qui a vraiment un toucher extraordinaire. Et à côté de moi, il y avait Sébastien Lumino, qui était aussi en résidence en Casamance, et puis Jacques Naz, qui était là aussi. Et on écoutait sa guitare. Et il a quitté son travail il n'y a pas très longtemps, et puis j'avais envie de l'aider, quoi, de lui rendre ce qu'il m'avait donné, quoi. Donc j'ai fait toute une série de chaises et de sièges, et je lui ai dit, maintenant tu composes là-dessus, quoi. Et donc il a fait un disque de 35 minutes. Et là, j'ai un autre projet de série qui s'appelle « Jouets d'adultes ». Et je vais faire des chars, des canons, des jouets solidos, des jouets de guerre, des bateaux, des navires de chez LR, les maquettes de guerre, tout ça, que mon père nous offrait quand on était petits, parce que mon père était militaire et qu'il essayait de nous transmettre son amour de la marine et de l'armée comme ça, je suppose. Bien qu'il ait terminé sa vie comme antimilitariste, mais ça c'est autre chose. Et donc ça, c'est tous ces jouets qui sont chez moi, je me suis dit je vais les dessiner, je vais en faire une série. Et là, il y avait avec nous un batteur aussi, Erwan Kornik, qui ne fait plus trop de musique non plus. Et donc je l'ai contacté et là on va faire donc dessin d'abord et ensuite ils feront guitare-batterie sur les jouets de... jouer d'adulte. Et j'espère faire deux ou trois séries comme ça de disques.
La musique à partir de dessins.
Ouais.
Ouais, c'est génial. Une toute dernière question par rapport aux 24 heures de la bande dessinée. On pose cette question à tous ceux qu'on interview. Qu'est-ce que tu penses des 24 heures de la bande dessinée? Est-ce que tu en as déjà fait une? Est-ce que tu veux en faire une? Est-ce que tu détestes ça? Est-ce que tu es intrigué? Voilà.
Non, je suis désolé, parce que je sais que vous portez ce projet, mais moi, je n'aime pas du tout l'idée des 24 heures de la bande dessinée. Généralement, quand j'en parle, je dis que ce qui serait pas mal à ce moment-là, on peut faire les 24 heures de la bande dessinée, il faudrait nous mettre des maillots rayés avec des numéros dans le dos, un short et des chaussettes, et puis nous trimballer dans des remorques avec des grillages, de village en village.
On le note très bien.
Cela dit, j'ai l'habitude de me contredire, donc peut-être que je les ferai un jour. J'ai un autre problème, c'est que je n'ai pas envie de faire de la bande dessinée dans un univers qui n'est pas le mien. Je pense que je ferai quelque chose de pitoyable. J'ai la certitude, c'est peut-être idiot, mais que de la manière dont je le fais, c'est-à-dire directement en me levant et à mon rythme et tout seul, je peux capter des choses et être dans ma bulle, dans mon truc. Dès que je suis avec d'autres gens, même en dédicace, et ça me demande énormément de concentration pour avec quelque chose. Et... voilà, il y a des gens très différents de moi. Là où c'est un peu idiot, c'est qu'il y a des gens qui sont très différents de moi. Et donc, je n'ai pas à dire forcément les 24 heures de la bande dessinée. Je sais que ça révèle des gens. Voilà. Non, cela dit, pour finir, j'ai eu une expérience quand même bizarre. Je suis allé à l'école d'Angoulême faire une intervention. Et les élèves me montraient leurs travaux, très bien, j'avais toujours quelque chose à dire. Et ils finissaient par me dire, oui, en même temps, je veux te montrer quelque chose, c'est ce que j'ai fait pendant les 24 ans de la bande dessinée. Je suis content parce que j'ai fait quelque chose. Mais je leur disais, mais c'est pas quelque chose que tu as fait, répondre à tu as fait un 24 ans de la bande dessinée, quoi. Mais je vois pas en quoi ça révèle ton état d'esprit, ton talent, quoi. C'est juste une performance. Et eux, ils confondaient les deux, quoi. Donc j'ai peur que... Bon. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être que je ferai l'expérience pour vérifier que j'ai tort.
Ou raison.
Ou raison. J'ai tendance toujours à croire que j'ai raison, mais il n'y a pas de raison que j'ai toujours raison.
Sur notre liste d'auteurs, on te mettra plutôt entre parenthèses, quoi. Pas sûr. Parce que Big Ben, on ne sait pas trop. Gilles Rochier a quasiment signé, mais...
S'il y a un désistement, on t'appellera.
Cela dit, si c'est un prétexte pour aller vous voir à Bruxelles et être dans votre loft, mais c'est avec plaisir.
Tu iras chercher les pizzas pendant que... tu viendras apporter les essuies pour les auteurs. Merci Nils.
Besoin de petites mains, ça, c'est sûr.
Merci Nils.
Et merci à vous.